point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le destin guide le fait de vouloir des hommes, le destin que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le blanc d'amour et de lumière s'étendisse et puisse-t-il serrer la porte de la lumière humaine, que lumière, amour et puissance restaure le blanc sur la terre.
Bonsoir.
Bonsoir. J'ai un grand nombre de questions. Je sais que nous ne procéderons plus par le système de questions et réponses. Donc, si vous voulez commencer directement, je ne vous poserai pas de questions.
Il y en a pourtant une qui est importante, qui est l'équilibre entre les forces. La question posée ne révèle pas le sujet tel que je viens de l'énoncer, mais c'est de cette façon-là que j'en aurais traité de toute façon. Qu'est-ce que j'entends par équilibre et qu'est-ce que j'entends par force? Soit, qu'est-ce que j'entends par humanité et par divinité? Ou aussi, si vous préférez, par âme et personnalité, ou encore par terre et soleil. Vous pouvez comme cela créer tous les couples, car tous les couples vont jouer avec ce même équilibre. Lorsque donc un homme naît, ou qu'une humanité naît, ou qu'un système solaire, un système de planètes naît, il va se passer exactement la même chose que lorsque un être humain est créé sur la Terre. C'est-à-dire que la naissance d'une planète, la naissance d'un système, la naissance d'un dieu, la naissance d'une hiérarchie ou la naissance d'un homme, c'est exactement la même chose. Je ne veux pas dire que tout va se résumer à la même méthode de création et de développement puis d'apothéose. Simplement, il faut savoir que les lois suivent toutes un certain processus. Il y a des variantes au fur et à mesure de la création, mais la base et la trame du développement, ces deux grands sujets sont exactement les mêmes. Donc, quand l'homme veut chercher à évoluer, il ne doit pas simplement chercher à évoluer, c'est-à-dire, selon les concepts qu'il emploie dans son système mental, chercher à se parfaire. Sitôt qu'il y a idée de perfectionnement, il y a automatiquement naissance de l'idée de non-perfectionnement. Et si j'insiste tant pour dire que le bien et le mal n'existent pas, que le blanc et le noir n'existent pas, c'est bien aussi pour faire comprendre à l'homme qu'il n'est pas prisonnier d'une polarité malsaine qui le balance entre la non-perfection et la perfection. Comme si la non-perfection était tout ce qu'il y a d'humain, et comme si la perfection était tout ce qu'il y a de divin, et que l'humain se trouvait, de par sa naissance et sa constitution d'humain, séparé constamment et irrémédiablement de Dieu. Il ne faut pas admettre le concept de non-perfection dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas assimiler le statut humain, le statut d'évolution que l'on attribue aussi au règne humain. Il ne faut donc pas cataloguer l'être humain dans le règne de la non-perfection et lui dire, eh bien voilà, tu es né imparfait, tu es né avec des difformités, Tu es né avec un mental hirsute, un mental noir qui va penser n'importe quoi, avec un astral difforme qui va créer n'importe quoi. Et pour que tu te libères de toute cette chaîne de non-sens, il va te falloir, par tes propres efforts, essayer de te parfaire et devenir un dieu. Beaucoup de livres, beaucoup de philosophies vous parlent dans ce sens-là. Et je ne les renie pas à la base. Simplement, je dis une chose. C'est que l'on ne peut pas sans cesse prendre l'homme pour un enfant. Et dire à un homme, tu es imparfait, c'est le prendre pour un enfant. C'est comme lorsque vous vous dites à votre enfant, tu ne sais pas encore faire telle et telle chose. Tu es trop petit. Tu dois apprendre, fais comme papa, fais comme maman. Et si tu fais comme papa et comme maman, alors tu sauras faire la chose. Et quand tu auras notre âge, tu seras aussi capable que nous. Il y a des âges dans l'évolution de l'humanité, mais aussi dans l'évolution des individus pris à l'état véritablement individuel. Il y a des âges où il s'agit de ne plus prendre l'homme pour un enfant et de lui dire simplement, mais avec évidence, les choses telles qu'elles sont. Il y a donc, lorsque vous regardez en arrière dans l'histoire de la planète, il y a donc un certain nombre de temples, un certain nombre de religions et de philosophies qui étaient là comme pour assister à la naissance de l'humanité, à la naissance de l'enfant humanité, et qui parlait à cette humanité de façon enfantine ou en tout cas admissible pour l'enfant humanité. Mais il faut savoir que comme les pages tournent, les pages d'un livre, les airs aussi tournent, le temps aussi avance. Et si le temps avance, c'est bien parce qu'il apporte autre chose. Il ne vient pas les valises pleines de quelque chose qui a déjà été donné, il y a 2000 ans, ou 5000 ans, ou 10000 ans, ou au jour de la création du monde. C'est pourquoi j'ai dit si souvent qu'il ne fallait jamais regarder en arrière, même si en regardant en arrière, l'on s'aperçoit que la vérité est la même depuis le début. Simplement, l'énoncé de la vérité, et surtout son extériorisation, et c'est là le point important. Pour bien comprendre l'évolution du monde, pour bien vous situer vous-même, non seulement dans votre propre démarche actuelle, mais aussi pour guider la démarche des autres, pour faire de bons choix. Lorsque vous devez rentrer dans des écoles ou des temples, ou suivre la parole de telle ou telle personne, ou choisir telle ou telle philosophie, ce que vous devez avoir à l'esprit net et clair, c'est qu'il y a toujours, fondamentalement, on ne peut pas l'éviter, une vérité ésotérique et une vérité exotérique. Et de la même façon que ce phénomène existe et qu'on ne peut pas l'empêcher, il se trouve que la vérité exotérique n'est jamais vraiment la même, sans pour autant la renier, que la vérité ésotérique. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que la révélation de la vérité, la manifestation de sa lumière, de toutes ses paroles, mais aussi de toutes ses hiérarchies qu'elle anime au fur et à mesure de sa descente, la révélation et l'extériorisation de la vérité se fait exactement comme la répartition de la vitalité dans l'homme au niveau de sa colonne vertébrale. Et l'homme n'est pas bâti simplement pour pouvoir marcher sur la terre, pour pouvoir avoir des bras, et des bras qui tiennent bien aux épaules, et des épaules qui tiennent à la colonne vertébrale. Il n'a pas des jambes uniquement pour marcher sur terre. Il n'a pas une tête posée sur sa colonne uniquement pour regarder le monde. Il est vrai que dans son sens primaire, dans son sens premier, la fabrication du corps et l'expression du corps permet tout cela. Simplement, si l'on regarde Et pour cela, il faut utiliser l'intuition, la vision intérieure. Si l'on regarde le cosmos comme étant une expression et non pas un but, parce que si l'on utilise le mental occidental et que l'on cherche un but au cosmos, on va chercher aussi un but et un but direct au corps. Et on va dire, eh bien, si j'ai des jambes, c'est pour marcher. Le but est direct. L'évidence paraît tellement logique. Cependant, il y a une autre façon de penser et qui est plus juste parce qu'elle intègre une certaine vision intérieure. Donc, elle permet une forme d'intuition. Elle fait donc appel au mental supérieur. Si vous regardez le cosmos comme étant une expression et pas un but, c'est-à-dire le but d'un dieu, le but d'une hiérarchie, le but d'une humanité arrivée à un certain développement et qui cristallise comme cela ses forces de création en un cosmos. Si vous prenez simplement le cosmos comme une expression, par là même, toute la vision du monde et de vous-même, mais aussi de tous les autres astres et de tous les événements qui ont lieu sur la Terre, la vision de toutes ces choses va être aussi complètement différente. Alors, d'un seul coup, vous ne trouvez pas que vous avez deux jambes pour marcher. Vous vous dites que par effet second, eh bien, c'est très pratique d'avoir des jambes parce qu'on peut marcher avec des jambes. Mais avant tout, vous savez que si l'expression cosmique qui se développe à travers vous, qui est une sorte de microcosme, que cette expression cosmique a créé des jambes uniquement parce qu'il y a besoin de racines. Donc parce que le pied représente le point de cristallisation des énergies du ciel et le point de transmission des énergies venant de la terre. Le pied est donc l'endroit de cristallisation de l'esprit et de la matière. C'est pourquoi il est si important d'avoir les pieds sur la terre. C'est pourquoi il est aussi important de soigner ses pieds, de leur permettre un contact direct avec les énergies de la terre, avec l'élément qu'est l'eau et parfois même avec le feu. Cela ne veut pas dire que je vous conseille dès demain d'aller marcher sur des braises brûlantes. Simplement, je dis que à certains moments de purification, il est bon de mettre le pied en contact avec une flamme. Car étant donné que le pied représente le point de cristallisation et d'enracinement de l'âme, c'est par là même la purification de l'âme, mais de l'âme un peu plus dense, qui est accomplie. Regardez comment marchent les hommes. Et quand vous aurez vu comment marchent les hommes, vous aurez compris quels sont les problèmes humains, les problèmes d'une société, les problèmes d'une civilisation. Je prendrai un exemple tout simple et en ce sens, je ne veux absolument pas accuser la mode. Mais prenons des illustrations pour s'amuser un tout petit peu. Regardez de quelle manière les hommes et surtout les occidentaux chaussent leurs pieds. Ils créent des chaussures de toutes sortes, très sophistiquées, de toutes couleurs, avec toutes sortes de décorations. Chaque fois que le soulier devient sophistiqué, il annonce, il met au grand jour la civilisation, et donc une civilisation elle-même aussi sophistiquée. Un homme ne peut pas imaginer marcher avec de mauvaises chaussures. Immédiatement, il lui semble être mal habillé, mal présenté. Il supportera de ne pas avoir un beau vêtement, mais il ne supportera pas d'avoir de vilaines chaussures. Sinon, toute sa présentation en entier est comme faussée et ridiculisée. Un homme va avant tout soigner ses chaussures. C'est un acte qui est inconscient, Mais c'est sur les actes inconscients qu'il vous faut travailler, parce que là sont les clés d'une analyse profonde, non seulement de vous-même, mais des autres et aussi d'une société. Si donc l'homme passe autant de temps à sélectionner ses chaussures, à soigner ses chaussures ou à renouveler ses chaussures, en tout cas qu'il y attache un temps du point de vue de l'esthétique et de la présentation, c'est bien parce que le pied représente plus que le pied. De façon consciente, il va se dire « c'est pour terminer mon habit, pour finir ma présentation ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur un plan conscient, les choses ne peuvent avoir d'importance que si elles en ont sur le plan inconscient. Donc, si l'homme va tant soigner la présentation de ses pieds, c'est parce qu'il sait que mettant le pied en avant, l'entier de sa personne va être vu, va être jugé. Ce qui ne veut pas dire que l'autre qui le regarde va le juger à ses pieds. Son inconscient, lui, a une autre interprétation de la chose. Car en fait, l'homme ne devrait pas soigner la présentation de son pied, c'est-à-dire la chaussure. Il devrait simplement soigner le type de pression que met son pied sur le monde. Mais étant donné que l'objectivité de l'homme n'est pas tout à fait consciente de ce qui se passe en tant que symbole dans l'inconscient, il y a donc distorsion et déformation des symboles. Si bien que les gens qui se soucient de beauté croient qu'ils doivent devenir beaux de façon extérieure, ils soignent leur apparence, alors que l'idée et le besoin de beauté qui vient de leur inconscient ne visent que la beauté intérieure. Il y a encore une fois distorsion, déformation. Et lorsque le symbole est vécu dans le conscient, qu'il l'a ainsi déformé, la beauté n'est plus qu'une préoccupation physique, au lieu d'être une préoccupation psychologique et intérieure, donc une purification. Donc, quand l'homme cherche à s'acheter de belles chaussures, que veut-il? Son esprit objectif veut une belle présentation pour sa personne. Mais son esprit subjectif veut qu'enfin, et une bonne fois pour toutes, il devienne un être de puissance sur la terre. Donc maintenant, quand vous achetez des chaussures, réfléchissez à deux fois. Ce qui ne veut pas dire que vous devez dès demain vous empêcher d'acheter des chaussures parce qu'en fait c'est votre subconscient qui vous demande un effort et une extériorisation de votre puissance. Si vous avez besoin de chaussures, achetez des chaussures. Je vous parle simplement d'un petit exemple de distorsion et de projection. Pour vous montrer à quel point tous les symboles de l'âme sont déformés lorsqu'ils arrivent au niveau de la conscience objective de l'homme. Le malheur, c'est que l'homme vit dans le miroir de ses distorsions. C'est-à-dire qu'il regarde tous ces symboles, mais de façon complètement difforme. Alors il se met à faire les choses qu'il croit être des vérités, des nécessités. Mais en fait, elles s'avèrent complètement contraires aux vérités et aux nécessités. Ce qui fait que les hommes et les femmes vont avoir des dizaines et des dizaines de paires de chaussures et pas un seul va enfin et une bonne fois pour toutes poser le pied sur la terre et y installer sa force. Que fait un homme avec ses pieds? Un homme avec ses pieds marche sur la terre. Il prend contact avec la terre. Il faut méditer à ce symbole. Il est très important. On ne se doute pas de l'importance des choses très simples. Pourquoi est-ce que l'homme marche? Il pourrait aussi bien voler. Dieu n'a-t-il pas créé les oiseaux? Ou il pourrait aussi bien nager, Dieu n'a-t-il pas créé les poissons? Ou il pourrait encore sauter, ou je ne sais quoi d'autre? Pourquoi est-ce que précisément l'homme marche? Pourquoi est-ce qu'il pose les pieds sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il a les deux pieds et les deux pieds sur terre? Pour répondre à cela, il faut expliquer un tout petit instant une loi occulte, qui est tout simplement explicative de la constitution de l'âme. Je ne voudrais pas trop longtemps m'étaler sur la constitution de l'âme, donc nous allons résumer et je vous demande simplement de l'admettre, car je ne vais pas démontrer mon discours. Prenons donc l'âme et admettons que cette âme soit pur esprit, c'est-à-dire une conscience. Une conscience qui ne peut ni s'adapter ni supporter la forme. La conscience ne peut pas s'adapter à la forme. Elle est sans forme. Elle peut à la rigueur s'investir comme on investit des rayons de soleil pour jouer dans les arbres ou pour jouer sur d'autres formes. Elle ne peut donc que diriger de très loin. Mais la conscience ne rentre pas dans la forme. Elle n'est pas dans la forme. Vous n'êtes pas dans votre corps. Quand vous vous dites « moi, je » et que vous vous ressentez en tant qu'être, en tant qu'individu, en tant que psychologie, en tant que somme de sentiments, d'émotions et de réactions, il faut savoir que vous ne ressentez simplement que la somme de ces réactions et de ces émotions. Mais il n'y a aucun « moi-je ». Penser qu'il existe un « moi-je » est aussi impossible que de penser que l'âme s'incarne dans le corps. Vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas dans votre corps. Vous pouvez vous chercher partout à l'intérieur, même en imaginant de rechercher au niveau des corps subtils comme le corps astral, le corps éthérique. Eh bien, vous ne retrouverez aucune âme. L'âme n'est pas là. Et l'être, les êtres auxquels je parle en ce moment, ne sont pas les êtres auxquels je parle véritablement. Si je voulais parler à votre âme, je devrais utiliser un tout autre moyen. Votre âme n'est pas là. Il ne faut pas imaginer que votre âme est incarnée. Donc, vous devez cesser de dire « moi, je ». Car si votre âme n'est pas là, le « moi, je » ne peut pas exister lui non plus. La personnalité, ce que l'on peut symboliser par le « moi, je », n'est donc pas quelque chose d'existant en tant que tel. Pour simplifier les discours, de nombreux philosophes ou de nombreux initiés ont employé le terme de personnalité. Personnalité à purifier, personnalité à maîtriser. Mais pour une plus grande envergure de pensée, à l'heure actuelle, il faut absolument admettre et travailler sur le fait que la personnalité n'existe pas. Et que la personnalité ne peut pas exister tout simplement parce que l'âme n'est pas incarnée. Beaucoup de gens s'imaginent que la personnalité existe parce que l'âme existe et que l'âme étant divine, puisqu'elle tombe dans la matière, elle va donc s'extérioriser en tant que personnalité. L'âme va donc créer son contraire dans la matière. C'est faux. Et il est aussi faux de dire et de penser « moi, je ». Pour cultiver une certaine liberté, travaillez à votre libération spirituelle, car c'est cela la spiritualité. Ce n'est pas autre chose. La spiritualité, ce n'est pas apprendre à devenir croyant. Ce n'est pas non plus se lever chaque matin pour méditer. et faire plus de méditation que même tous les moines du monde réunis. La spiritualité, ce n'est pas chaque jour se priver de ceci, se priver de cela, pour montrer la maîtrise que l'on a sur le corps et sur les sens. La spiritualité, ce n'est pas non plus prier Dieu, même si on aime Dieu. Ce n'est pas non plus se précipiter pour faire du bien à tout le monde. La spiritualité, fondamentalement, lorsqu'on l'apprend dans son concept le plus dépouillé, la spiritualité, c'est la libération. Ce n'est pas autre chose. Alors, ensuite, pour se libérer, que les hommes utilisent le service et qu'ils courent ainsi faire du bien à tout le monde, c'est une chose. Ou qu'ils utilisent la prière et la méditation, c'est autre chose. Mais la prière, la méditation, le service, ce n'est pas la spiritualité. C'est un certain moyen alchimique pour déclencher des vibrations, déclencher des retours d'énergie, afin que la libération s'effectue petit à petit. Si vous avez l'impression de servir depuis très longtemps et qu'il ne s'est rien passé pour vous, c'est ce que disent les personnes qui, après avoir fait un certain bien ou beaucoup de bien, se disent « mais je ne comprends pas. J'ai servi Dieu toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait des efforts. Depuis 15 ans ou depuis 20 ans, voilà que je médite et que je prie. Je distribue même mon argent. Je fais des sourires à tout le monde pour transmettre la bonne humeur et le positif. Et malgré cela, depuis tout ce temps, en moi, rien n'a bougé, rien n'a changé. Je n'ai jamais entendu un son divin. Je n'ai jamais reçu une intuition pendant la méditation. Je n'ai même jamais changé de niveau de méditation véritablement. J'ai encore moins rencontré un maître, ne serait-ce que par rêve ou que par apparition. Rien n'a changé. Lorsque, au cours de votre vie, vous faites ce bilan, cette constatation, je vous le dis, il ne faut pas tomber dans le désespoir et imaginer que Dieu, finalement, vous a abandonné ou que vous êtes trop inférieur pour que le Maître s'intéresse à vous. Rien n'est plus faux de penser de la sorte. Cependant, si vous connaissez une certaine isolation, ce n'est pas parce que votre pureté ou votre engagement sont en cause, mais c'est peut-être uniquement le déroulement de votre substance mentale qui met un dernier frein à une rencontre avec le guide, avec l'étoile. C'est pourquoi nous voulons absolument et autant qu'on nous le permettra, travailler au niveau des conceptions et des idées. Parce que même un homme qui se trouve être prêt à recevoir une certaine énergie, à changer de plan de conscience ou à rencontrer un grand être, un individu qui se trouve donc prêt à recevoir et à contempler tout cela, au moment où il est le plus haut, peut se trouver en même temps au plus bas. Pourquoi ? Parce qu'au moment où l'on se trouve au plus haut, commence à intervenir et à devenir prédominant le mental. Pour expliquer cela, il faut savoir que l'homme n'est pas simplement une psychologie et qu'un beau jour, lorsqu'il a tout maîtrisé, sa psychologie se retire. Il faut savoir que l'homme n'est pas simplement une pensée spéculative, et que le jour où il a le bonheur d'être un maître, il ne pense plus. Faux ! Dieu lui-même, en personne, pense encore. Bien sûr, sa pensée n'est pas la même, mais c'est celle que doivent imiter les hommes. De quelle pensée, donc, à ce que je parle? Ou autrement dit, pourquoi est-ce que l'homme est capable de penser? Comment se fait-il que l'homme pense? L'homme ne pense pas comme s'il se trouvait que le règne humain auquel il appartient, considérant le niveau d'évolution dans lequel se loge l'humanité, que donc le processus de la pensée est un processus normal de l'activité humaine, comme il y a le processus de la respiration. Rien n'est créé comme cela pour ne servir qu'à un petit moment de l'histoire. De la même façon que vous n'avez pas les pieds sur terre pour rien et que vous ne marchez pas pour rien, vous ne pensez pas pour rien non plus. Vous n'avez pas un mental, même s'il est inférieur, vous ne l'avez pas pour rien non plus. Pourquoi est-ce que l'homme pense? L'homme pense, le cerveau physique reçoit les pensées, la psychologie humaine conçoit la pensée. Encore une fois et uniquement par déformation des symboles et de la vie de l'âme. Autrement dit, l'âme contemple, l'âme voit, l'âme sait, et l'homme, par déformation de cette vérité, l'homme pense, l'homme imagine, l'homme conçoit. Si l'homme conçoit, pense et imagine par déformation des symboles de l'âme, il va lui falloir donc ne pas tenter d'arrêter toute pensée. Ce n'est pas la pensée qui est en cause. C'est tout simplement le processus suivant lequel l'homme ordinaire pense. Si l'on voulait arrêter toute pensée, eh bien l'on arrêterait en même temps en vous-même toute divinité, parce que tout simplement l'on arrêterait tout le processus de la conscience. Or, la conscience, lorsqu'elle est plongée dans la création, la conscience, prenons-la comme un objet, est un objet qui se contemple elle-même. Et elle répète sans cesse dans sa danse cosmique « Je suis cela, je suis cela, je suis cela ». Lorsqu'elle est plongée dans la création, et uniquement à ce moment-là, l'âme se contemple elle-même. Se contemplant elle-même, elle prononce le « je suis cela ». Prenez cette contemplation à l'état de l'expression humaine traditionnelle. Le « je suis cela » ne sera plus relatif à l'âme ou à la conscience. Le « je suis cela » ne sera plus le champ de la contemplation de l'âme, mais le champ d'une psychologie qui se voit dans le miroir de la chambre ou de la salle de bain. Et donc l'homme va se dire « Je suis Pierre, je suis Pierre, je suis Pierre, je suis Paul, je suis Paul, je suis Paul, je suis brun, je suis blond, je suis grand, je suis petit, je suis laid, je suis beau, je suis intelligent, je suis bête, je suis riche, je suis pauvre, je suis bien habillé, mal habillé, je suis aimé, pas aimé, je déteste, je n'aime pas, ou j'aime, j'adore. » Et ainsi de suite, par effet de miroir, la conscience psychologique, qui est donc une petite conscience, va contempler tout ce qui lui revient depuis le phénomène humain. Donc, depuis ce que l'on appelle la personnalité. Et c'est uniquement ce jeu de miroir que vous vous appelez la personnalité. Ce que vous vous appelez la personnalité, c'est uniquement ce champ de la psychologie qui dit « je suis Pierre, je suis Jacques, je suis petit, je suis laid, je suis grand, je suis riche ». Si ce ne sont que des paroles, comment est-ce que ces paroles pourraient avoir une réalité? Pourquoi êtes-vous séduit par ce chant-là? Vous ne devez pas écouter ce chant. C'est une mauvaise sirène. Vous n'êtes pas Pierre, vous n'êtes pas Paul, vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas beau ni laid. La conscience est un témoin universel, un témoin cosmique. La conscience n'en a rien à faire de s'appeler Pierre, Paul, d'être grand, petit. La conscience n'a rien à faire de cette chanson-là. Il ne faut donc pas faire chuter la conscience dans l'écoute et le mirage de cette chanson. Parce que si le témoin écoute cette chanson et croit cette chanson, le témoin va tomber au niveau du chant et il va lui aussi se mettre à chanter « Je suis Pierre, je suis Paul, je suis laid, je suis bête, je meurs, je ne veux plus vivre. » Par contre, le témoin va vouloir vivre s'il trouve qu'il est Pierre et qu'il est beau et qu'il est riche et bien portant. Donc, quand la chanson est triste, le témoin veut mourir. Quand la chanson est gaie, le témoin veut vivre. Mais comme il y a toujours un balancement de chansons tristes et de chansons gaies, que ce soit dans une vie, mais aussi dans toutes les vies, alors le témoin ne sait plus où donner de la tête. Un jour, il doit pleurer, un jour, il doit rire, un jour, il est grand, un jour, il est petit. Un jour il est bête, un jour il est intelligent, un jour on l'aime, un jour on ne l'aime plus, un jour il s'aime lui-même, un jour il ne s'aime plus. Et perdu dans la valse de ses contraires, eh bien il ne sait plus quoi faire. Et il décroche complètement. Il se dit, puisqu'il ne peut pas exister un monde où je sois tranquille, alors je vais me créer mon monde. Et c'est là que commencent les projections. Et c'est là que les individus commencent à remplir les cabinets des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, et plus loin, de l'asile psychiatrique. Dès que commence le jeu des projections et qu'un individu en a assez d'avoir la tête ballottée d'un côté, de l'autre, de tous ces non-sens et contraires, et qu'il ne peut plus supporter le malheur et l'instabilité dans lesquelles cela le propulse, l'individu alors dit stop, le balancier ne balancera plus. Je l'arrête et je crée mon propre monde. Et à partir de ce moment-là, l'individu exclut complètement la réalité extérieure. Il ne voit plus le monde tel qu'il est. Il ne se soucie même pas de connaître le monde tel qu'il est. Il se dit simplement, le monde sera cela. Et je ferai en sorte que cela soit. Et comment s'y prend-il? Il ne va pas forcer les événements extérieurs, il est tout seul contre le monde entier. Et de façon sous-jacente, il le sait très bien. Alors il pose, il tire simplement des rideaux partout où les événements ne conviennent pas à sa perception. Et c'est là que commence la perte du sens de la réalité. C'est là que commence ce que l'on peut appeler une certaine forme et un certain degré de folie. On ne peut pas dire que ce soit une folie dure et absolue. Ce n'est que l'antichambre. Je fais mon propre monde. Je me crée mes propres amis, même s'ils n'existent pas. Je me crée aussi mes propres ennemis, même s'ils n'existent pas. Et je me crée ma propre grandeur. Et à partir de ce moment-là, la communication de cet individu vis-à-vis du monde n'existe plus. Lorsque l'on essaye d'aider ce genre d'individus lorsque l'on veut les sauver, entre guillemets. Il faut savoir que l'on n'a pas à travailler simplement sur leur retour dans le monde, ou bien à leur faire retrouver une confiance en eux-mêmes, ou une confiance envers les autres. Tout au contraire, ils ont décidé, une bonne fois pour toutes, de ce que serait la vie extérieure et leur vie intérieure. Ils ont fait un décret et vous ne pourrez pas passer par-delà ce décret. Donc, dans un milieu thérapeutique approprié, lorsque vous voulez traiter ces personnes, il ne faut pas les traiter comme si petit à petit vous allez les rapprocher du monde et leur recomposer une vision du monde. Vous devez leur faire savoir nettement et franchement que vous connaissez leur comédie, que vous connaissez leur prise de position et que vous n'êtes pas dupe de leur cinéma, de ce cinéma intérieur. Et vous leur dites nettement et franchement que vous n'avez pas du tout envie de les soigner, qu'ils ne sont absolument pas intéressants, qu'ils n'ont aucune importance, puisque c'est leur propre personne qui a créé l'état de choses dans lequel ils se trouvent. Et que vous n'avez pas de temps à perdre avec les volontaires pour la mort, et que vous allez au contraire vous consacrer aux autres personnes qui sont accablées par le destin d'une autre manière. Sitôt que vous vous orientez vers ce genre de discours, vous allez vous apercevoir qu'une immense froideur va envahir la personne concernée et qu'il n'y a aucune réponse. Et vous devez compter sur ce silence pour transformer la personne. Cela veut dire que la personne est en train de réfléchir. La personne réfléchit avec le témoin intérieur qui un jour a basculé et a décrété de stopper complètement le balancement du pendule. Une fois que la personne aura suffisamment fait le tour de ce manque de mouvement et qu'elle aura fait le tour aussi de votre absence de mouvement, alors vous pourrez commencer à soigner cet individu. Il vous fera signe. Il vous dira « Occupe-toi de moi, sauve-moi, dis-moi quelque chose » ou « Emmène-moi à tel endroit ». Il ouvrira la porte d'une certaine manière. Et dès que vous aurez vu cette ouverture, alors là, vous pouvez commencer à soigner classiquement la personne en redonnant la confiance, en réhabituant l'esprit à penser à l'amour des autres et avec amour pour les autres, etc. Ceci était juste pour expliquer de quelle manière le témoin qui est la conscience peut être fragile et peut basculer, sans que cela apparaisse véritablement, peut basculer dans une sorte de folie, un arrêt de la vie. Car c'est véritablement un arrêt. Donc, pour perpétuer le mouvement de la vie, ce mouvement de balancier, et pour que ce mouvement se fasse de façon juste, c'est-à-dire qu'il en arrive à se dépouiller du balancement simple et dur entre les contraires, la tristesse, la joie, le blanc, le noir, pour qu'il balance entre d'autres valeurs et grâce à d'autres valeurs, il faut que l'individu arrive à penser de façon différente. Et comme je le disais tout à l'heure, pour un individu qui se trouve au plus haut, il peut en même temps se trouver au plus bas si sa substance mentale n'a pas été dépouillée des archaïsmes de la pensée et d'une pensée ancestrale. C'est pourquoi il ne faut pas penser que vous êtes une personnalité et que là-haut, quelque part, sur un nuage, ou à Shambhala, il y a votre âme, et que vous essayez en grimpant une corde trop épaisse et tellement dure que vous essayez de rejoindre cette âme. Si cela était, il y aurait longtemps que beaucoup d'individus auraient rejoint leur âme, car il y a de bonnes volontés parmi les humains. Mais il ne s'agit pas du tout de monter pour attraper l'âme et la prendre sous le bras et vite redescendre dans la personnalité et vite l'enraciner dans cette personnalité en lui disant « Surtout reste là parce que si tu remontais à Shambhala, je serais complètement perdue. » Il ne s'agit pas de cela. Pour être votre âme, il vous suffit d'arrêter de penser que vous n'êtes pas l'âme. Étant donné que la conscience est prisonnière d'un système de projection, un système qui lui projette donc un hymne, « Je suis cela » ou bien « Je suis Pierre » et que sa chute ou sa prison, c'est uniquement ce chant, il est donc facile de comprendre que lorsque vous arrêtez ce processus de projection et que vous arrêtez le champ inférieur, en vous va naître forcément le champ supérieur, le champ que chante déjà votre âme. Mais un champ dont elle deviendra encore plus consciente parce qu'elle n'aura plus à contempler, à écouter l'autre champ, celui qui est inférieur et qui vient des sirènes de la matière. Je voudrais casser dans l'esprit des gens le processus qui a été installé, qui dit que l'homme a été projeté de la matière comme le magma est projeté du volcan, et puis qu'il s'est trouvé solidifié au fur et à mesure.